Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui après ces semaines d'absence, d'interruption. Je vous fais souvent découvrir, la plupart du temps, des œuvres récentes, des best-sellers qui viennent de sortir et qui ont déjà une certaine renommée. Eh bien aujourd'hui, au contraire, nous allons revenir un petit peu en arrière. C'est le livre de Jean Giono, Colline, que j'aimerais dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Pourquoi Colline? Pourquoi Jean Giono? C'est un écrivain donc manosquin qui est né en 1895 et qui est mort à Manosque en 1970. Alors pourquoi lui? Parce que dans le paysage littéraire du XXe siècle, littéraire français, je pense que Giono est un des meilleurs écrivains français. C'est une figure dominante dont la renommée est intacte de nos jours en 2021. Rien que dans notre région, de nombreuses manifestations littéraires continuent à se faire autour de son œuvre. Je vous en cite quelques-unes. À Manosque, il y a le centre Jean Giono qui n'arrête pas d'organiser des événements culturels autour de son œuvre. Les correspondances de Manosque chaque année lui rendent hommage. Cette année, l'association Les Amis de Jean Giono lise un choix de lettres à ses parents, ses amis, ses amis écrivains, ses éditeurs. Il y a la librairie Le Bleuet à Bannon qui fait une nocturne autour du thème Giono et le monde rural. Et plus près de chez nous, à Puissanière, donc, il y a des lectures qui sont organisées autour de l'œuvre de Jean Giono, à laquelle participe notre association Littera 05. Alors moi j'aimerais vous faire découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas lu, son premier roman, Colline, paru en 1927. Ce livre fait partie d'une trilogie qui s'appelle la trilogie de Pan, avec deux autres livres, un de Beaumugne et Regain. Je vous lis le début. Quatre maisons fleuries d'orchis, jusque sous les tuiles émergent de blé dru et haut. C'est entre les collines, là où la chair de la terre se plie en bourrelet gras. Le sainfoin fleuri saigne dessous les oliviers. Les avettes dansent autour des bouleaux gluants de sève douce. Le surplus d'une fontaine chante en deux sources. Elle tombe du roc, et le vent les éparpille. Elles pantellent sous l'herbe, puis s'unissent et coulent ensemble sur un lit de jonc. Le vent bourdonne dans les platanes. Ce sont les Bastides Blanches. Alors les Bastides Blanches, donc un village où il ne reste que 13 habitants. 12 d'entre eux appartiennent aux quatre familles là, qui sont là, et le 13e étant Gagou, l'idiot du village qu'on rencontre souvent chez Giono. Et il nous dit c'est celui qui fait le mauvais compte, parce qu'on en arrive à 13. C'est une micro-société isolée qui vit au cœur de la campagne, près d'une colline, d'où le titre « Colline ». C'est un décor que l'on retrouve toujours chez Giono, un paysage grandiose, souvent des villages qui se meurent, des villages qui sont traversés par le vent, un vent qui peut être parfois doux, parfois très violent, et quand il est violent, il fait gémir les maisons. Ou alors, il y a une chaleur suffocante qui fait, nous dit Giono, onduler les collines. Je vous lis le passage où il parle du vent dans Colline, page 35. Ce soir, Marguerite, donc une habitante, n'a pas eu le temps de faire de la cuisine. Gondran, son mari, pour son souper, mange un oignon cru. Il a coupé par le milieu. Il défait une à une les côtes concentriques, les trempe dans la salière et les croque. C'est un soir malade. Le vent s'est élevé du Rhône. Un orage doit boucher le défilé de Mondragon. Tout le jour, le fleuve du vent s'est rué dans les cuvettes de la Drôme. Monté jusqu'aux châtaigneraies, il a fait les 100 coups du diable dans les grandes branches. Il s'est enflé peu à peu jusqu'à déborder les montagnes et sitôt le bord sauté, pomponné de pelotes de feuilles, il a dévalé sur nous. Maintenant, il siffle autour des bastides dont les flûtes de pierre que les torrents ont creusées. Les bois dansent, des lambeaux d'orage passent, une courte foudre gronde et luit. L'air sent le soufre, le gravier et la glace. Une lumière d'eau teint la vitre où le lierre désemparé cogne de son lourd bras de feuilles. La porte du grenier saute sur ses gonds. On dirait que là-haut, on écrase une portée de chaton à coups de talon. La nuit vient. Le vent prend de la gueule. Le ciel sonne comme une voûte de tôle sous la grêle. Un long gémissement traverse la maison. Ce n'est pas la lucarne. Elle est barrée. La fenêtre, elle grelotte, mais ne gêne pas. Lui, le verrou est neuf. Alors quoi ? Gondran mange. L'oignon craque sous ses dents. Ça l'empêche de bien entendre ce gémissement qui l'intrigue. Il s'arrête de mâcher. La plainte naît. Elle pousse son corps tranchant à travers la chair de la maison qui tressaille. Vous avez noté toutes les images qui font de cet élément, le vent, une véritable personne. Alors, cette petite société, donc de 13 personnes, vit en bonne entente, en quasi-autarcie. Elle se contente de peu, elle vit des produits de la terre, bien sûr. Mais c'est une vie rude et austère, difficile. Autour d'eux, c'est une nature sauvage que l'homme arrive à dominer. Il coupe les arbres, il arrache les plantes, il tue les animaux pour se nourrir. Un jour, Gontran, donc celui que l'on vient de rencontrer, le personnage que l'on vient de rencontrer, un homme, va travailler dans son verger qu'il a acheté pour une bouchée de pain et où il cultive des oliviers. D'abord, Gondran a creusé un trou sous le genévrier le plus touffu. Et quand il a atteint la terre noire, il a mis sa bouteille au frais. Il a choisi une bonne branche à l'abri des fourmis pour pendre son carnier. Puis, manche troussée, il s'est mis au travail. Et l'acier de sa bêche a chanté dans les pierres. L'ombre des oliviers s'est peu à peu rétrécie. Tout à l'heure, comme un tapis fleuri de taches d'or, elle tenait tout le champ. Sous les raies de plus en plus droits, elle s'est morcelée, puis arrondie. Maintenant, elle n'est plus que goutte grise autour des troncs. C'est midi. La bêche s'arrête. Sieste. L'air plein de mouches grince comme un fruit vert qu'on coupe. Gondran, collé à la terre, dort de tout son poids. Il se réveille d'un bloc. Du même élan tranquille, il plonge dans le sommeil, puis il émerge. D'un coup de rein, il est debout. En cherchant sa bêche, il rencontre le visage de la terre. Pourquoi aujourd'hui cette inquiétude qui est en lui? L'herbe tressaille. Sous le groussant jaune, tremble le long corps musculeux d'un lézard surpris, qui fait tête au bruit de la bêche. « Ah, l'enfant de pute !» La bête s'avance par bonds brusques, comme une pierre verte qui ricoche. Elle s'immobilise, les jambes arquées. La braise de sa gueule souffle et crachote. D'un coup, Gondran est un bloc de force. La puissance gonfle ses bras, s'entasse dans les larges mains sur le manche de la bêche. Le bois en tremble. Il veut être la bête maîtresse, celle qui tue. Son souffle flotte comme un fil entre ses lèvres. Le lézard s'approche. Un éclair, la bêche s'abat. Il s'acharne à coups de talons sur les tronçons qui se tordent. Maintenant, ce n'est plus qu'une poignée de boue qui frémit. Là, le sang plus épais rougit la terre. C'était la tête aux yeux d'or. La languette, comme une petite feuille rose, tremble encore dans la douleur inconsciente des nerfs écrasés. Une patte aux petits doigts emboulés se crispe dans la terre. Gondran se redresse. Il y a du sang sur le tranchant de son outil. Sa large haleine coule, ronde et pleine. Sa colère se dissout dans une profonde aspiration d'air bleu. Subitement, il a honte. Avec son pied, il pousse de la terre sur le lézard mort. Voilà le vent qui court, les arbres se concertent à voix basse. Le chien n'est plus là. Il a dû partir sur la quête de quelque sauvagine. Sans savoir pourquoi, Gondran est mal à l'aise. Il n'est pas malade. Il est inquiet, et cette inquiétude est dans sa gorge comme une pierre. Il tourne le dos à un grand buisson de sureaux, de chèvrefeuilles, de clématites, de figuiers emmêlés qui grondent et gesticulent plus fort que le reste du bois. Pour la première fois, il pense, tout en bêchant, que sous ses écorces monte un sang pareil à son sang à lui, qu'une énergie farouche tord ses branches et lance ses jets d'herbe dans le ciel. Il pense aussi à Jeannette. Pourquoi ? Il pense à Jeannette et il cligne de l'œil vers le petit tas de terre brune qui palpite sur le lézard écrasé. Du sang, des nerfs, de la souffrance. Il a fait souffrir de la chair rouge, de la chair pareille à la sienne. Ainsi, autour de lui, sur cette terre, tous ses gestes font souffrir ? Il est donc installé dans la souffrance des plantes et des bêtes ? Il ne peut donc pas couper un arbre sans tuer ? Il tue quand il coupe un arbre. Il tue quand il fauche. Alors, comme ça, il tue tout le temps ? Il vit comme une grosse barrique qui roule en écrasant tout autour de lui ? C'est donc tout vivant ? Jeannette l'a compris avant lui. Tout, bêtes, plantes, et qui sait, peut-être les pierres aussi. Alors il ne peut plus lever le doigt sans faire couler des ruisseaux de douleur. Il se redresse, appuyé sur le manche de l'outil, il regarde la grande terre couverte de cicatrices et de blessures. L'aqueduc dont le canal vide charrie du vent sonne comme une flûte lugubre. Cette terre qui s'étend, large de chaque côté, grasse, lourde, avec sa charge d'arbres et d'eau, ses fleuves, ses ruisseaux, ses forêts, ses monts et ses collines, et ses villes rondes qui tournent au milieu des éclairs, ses hordes d'hommes cramponnés à ses poils. Si c'était une créature vivante, un corps, avec de la force et des méchancetés. Une grande masse qui pourrait rouler sur moi comme je suis tombée sur le lézard. Ce val se plie entre les collines où je suis en train de gratter, s'il allait bouger sous le coupant de ma bêche. Un corps avec de la vie. La vie, c'est du mouvement, c'est des soupirs. La voix de l'aqueduc et le chant des arbres. De la vie, mais sûre, car elle bouge cette terre. Il y a 10 ans, elle s'est secouée. En bas, vers Aix, des villages se sont écroulés. Lambesque, d'autres, et les cloches de Manosque ont sonné toutes seules en haut de leur clocher. L'idée monte en lui comme un orage. Elle écrase toute sa raison. Elle fait mal. Elle hallucine. L'ondulation des collines déroule lentement sur l'horizon ses anneaux de serpent. La glèbe halète d'une aspiration légère. Une vie immense, très lente mais terrible, par sa force révélée, émeut le corps formidable de la terre, circule de mamelon en vallée, ploie la plaine, courbe les fleuves, hausse la lourde chair herbeuse. Tout à l'heure, pour se venger, elle va me soulever en plein ciel jusqu'où les alouettes perdent le souffle. D'un rond de bras, Gondran rafle son carnier et monte à grande enjambée à travers la colline, sans oser siffler son chien. Et puis, justement, des événements commencent à faire naître la peur. Il y a comme une menace, mais une menace inconnue qui grandit, qui va terroriser petit à petit les habitants des Bastides Blanches. En plus, c'est une menace mystérieuse, secrète, et ça accentue justement le danger et l'inquiétude. On sent que quelque chose de tragique va se passer, quelque chose de terrible approche. Mais quoi ? Très vite, il y a des manifestations de cette menace. La source qui alimente le village est tarie. La fontaine est muette. Une des deux petites filles qui habite le village tombe malade. Un incendie se déclare sur la colline et menace le village. Et ce qui accentue encore plus cette peur panique, rappelez-vous, la trilogie de Pan, le mot panique vient du mot Pan. Ce qui accentue donc encore cette peur panique, ce sont les hallucinations que le plus vieux des habitants, Jeannette, dont Gondran a fait allusion tout à l'heure à Jeannette. C'est un homme de 82 ans qui est paralysé dans son lit, il va mourir, et il a eu des hallucinations en laissant échapper justement des paroles incohérentes. Par exemple, il arrache de ses doigts des serpents qu'il voit accrochés à ses doigts. C'est une forme justement de ses hallucinations. Les serpents, dit-il, les serpents. Quels serpents ? Les serpents, je te dis, ceux de mes doigts. J'ai des serpents dans les doigts, je sens les écailles passer dans ma viande. Son petit rire craque comme une pomme de pin qu'on écrase. Je les guette. Quand leur tête est au ras de l'ongle, je la serre, je la tire, toute la bête sort, alors je la jette par terre. Pendant ce temps, l'autre monte dedans le doigt, je la tire et je la jette aussi. C'est un long travail. Mais quand ma main sera vide, j'aurai plus de mal. Jeannette, c'est un sourcier, mais un sourcier, sans jeu de mots, je dirais, un peu sorcier. Il sait, lui, ce qui se passe. Il n'y a pas de mystère pour lui. On dit de lui que c'est un homme qui a toujours été près de la terre, plus que les autres habitants du village. Par exemple, il endormait les serpents, d'où son pouvoir. Et c'est cette peur qui est le sujet central du livre, la montée de cette peur dans ce village isolé. Et Jeannette, qui sait, de son lit, qu'il ne quitte plus, il les entraîne vers une sorte de remise en question de leur façon de vivre. Et ils en arrivent, enfin certains, en arrivent à regretter leur vie d'avant. Ils prennent conscience qu'il y a des forces qui dépassent l'homme, qui surgissent et qui agissent. Et ils se posent des questions. De quel droit l'homme a-t-il imposé son ordre à la terre entière ? De quel droit l'homme s'est-il attribué le pouvoir sur les autres espèces ? De quel droit fait-il souffrir les autres espèces, les animaux, les plantes et peut-être même les pierres ? Écoutez Jeannette ce qu'il dit. Il y a trop de sang autour de nous. Il y a 10 trous. Il y a 100 trous. Dans des chairs, dans du bois vivant, par où le sang et la sève coulent sur le monde comme une durance. Il y a 100 trous, il y a 1000 trous que nous avons faits, nous, avec nos mains. Et le maître n'a plus assez de salive et de paroles pour guérir. Jom, un autre habitant des Bastides, est venu voir Jeannette. Il va écouter le vieil homme malade et il va prendre conscience de quoi. Eh bien, je vous lis le passage. Page 85. Les bêtes, les plantes, la pierre. C'est fort un arbre. Ça a mis des 100 ans à repousser le poids du ciel avec une branche toute tortue. C'est fort une bête, surtout les petites. Ça dort tout seul dans un creux d'herbe, tout seul dans le monde. Tout seul dans le creux d'herbe et le monde est tout rond autour. C'est fort de cœur. Ça ne crie pas quand tu les tues. Ça te fixe dans les yeux. Ça te traverse par les yeux avec l'aiguille des yeux. T'as pas assez regardé les bêtes qui mouraient. C'est fort une pierre, une de ces grandes pierres qui partagent le vent, droite depuis qui sait, 1000 ans? Une de ces pierres qui ont vu le premier jour et qui sont depuis qui sait combien, toujours les mêmes, sans changer. C'est ça qu'il faut savoir pour connaître le remède. Jaume écoute. Il sent le monde branlant sous ses pieds comme une planche de barque. Sa tête est pleine des images de la terre. Il voit des arbres, des plantes, des bêtes, de la sauterelle au sanglier. Et c'est pour lui le monde bien solide où il marche le long des sillons immobiles. Et maintenant ? Certes, il n'aurait pas cru Jeannette si fort, et c'est d'abord cette puissance entrevue qui l'effraie. Cette fois, c'est quelqu'un qui sait qui parle. Celui-là sait, vraiment, et tout s'éclaire de ce qui était obscur. Les choses s'expliquent qu'on ne comprenait pas. Mais ce qui entre ainsi dans la lumière est terrible. C'était si simple à l'ancienne façon. L'homme est tout autour, mais sous lui, les bêtes, les plantes. Ça marchait bien comme ça. On tue un lièvre, on cueille un fruit, une pêche, c'est du jus sucré dans la bouche. Un lièvre, c'est un grand plat débordant de viande noire. Après, on s'essuie la bouche et on fume une pipe sur le seuil. C'était simple, mais ça laissait beaucoup de choses dans la nuit. Maintenant, il va falloir vivre avec ce qui est désormais éclairé, et c'est cruel. C'est cruel parce que ce n'est plus seulement l'homme et tout le reste en dessous, mais une grande force méchante et bien en dessous, l'homme mêlé aux bêtes et aux arbres. Vivante, et terrible, il sent sous ses pieds bouger la colline. Alors cette grande force dont parle Jeannette et dont prend conscience Jaume replace l'homme justement à sa juste place. C'est quoi sa juste place? Rappelez-vous ce que je vous ai signalé au début. Colline fait partie de la trilogie de Pan, avec un de Beaumugne et Regain. Pan, il était dans la mythologie le dieu de la nature, le dieu qu'on appelait le dieu du tout, le dieu d'avant, le dieu d'après. Jono s'est beaucoup nourri de la littérature grecque. Et on trouve justement dans cette trilogie des allusions panthéistes qui mettent en avant la force de la nature. Une force qui permet à la nature de dominer l'homme. Et cette nature, parfois, rappelle sa toute-puissance aux hommes. Que l'homme se méfie s'il continue à malmener la vie, à infliger des souffrances au monde vivant. Plus dure sera la vengeance de la force qui pourrait tuer l'humanité. Alors les hommes vont-ils enfin prendre conscience que le monde qui vit autour d'eux souffre par leur faute, que des forces qu'ils ne maîtriseront pas peuvent un jour ou l'autre agir? Vont-ils enfin cesser d'imposer la loi humaine, la loi du plus fort à la terre, en l'obligeant à produire quoi qu'il en coûte, à contraindre les animaux à les servir et à vivre pour devenir leur nourriture? Vont-ils cesser cette marche en avant? Ce sont des questions auxquelles les habitants des Bastides à un moment se sont posées. Quel chemin vont-ils prendre? Vont-ils rêver, comme Jeannette à la fin de sa vie, d'un monde fait d'harmonie et d'amour entre tous les êtres vivants? Ou alors vont-ils oublier le tragique de leurs conditions en reprenant la routine d'avant, la routine des travaux de tous les jours? Je ne vous donne pas la réponse, je vous la laisse découvrir en vous conseillant de lire ce superbe livre qui est Colline et en vous rappelant qu'il a été écrit en 1927. Merci pour votre écoute. À bientôt.